Alléluia, bonjour à tous. Bienvenue dans ce lieu où nous proclamons et nous vivons la victoire. Amen. Victoire de Jésus-Christ. Ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Alléluia. Hier, il y avait la Ligue des Champions, je vais y arriver. Le Real Madrid a remporté la victoire. Mais l'année prochaine, est-ce que le Real remportera la victoire? Est-ce que dans 2 ans, ça sera toujours le cas? Dans 3 ans? Imaginons un seul instant et que nous réalisons que la victoire de Jésus-Christ, elle est permanente, elle est définitive. Elle était hier, elle est en ce moment, elle est demain. Éternellement. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire le nom qui est au-dessus du cancer. Le nom qui est au-dessus de la maladie, le nom qui est au-dessus de la montagne. Je ne sais pas comment elle est haute, ta montagne, mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Amen. Et on est dans la victoire, on marche dans la victoire. Oh, dis avec moi, je suis victorieux ou victorieuse. Amen. Alléluia. Ce mois-ci, on va parler de l'Église. Et peut-être que tu n'es pas habitué à la notion d'Église et que lorsqu'on dit Église, pour certains, vous faites déjà un schéma, peut-être un clocher, peut-être un édifice, peut-être une construction. Lorsqu'on parle Église, il y a toutes sortes d'images. Mais ce mois-ci, on va vraiment aller dans le détail et par sa grâce, revoir un peu quelques fondements sur ce qu'est l'Église. Sans plus tarder, on va lire, je vais voir si je vais parler de mon thème. Donc, je ne donne pas mon thème, mais je vais juste lire le verset. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. C'est Jésus qui parle et qui parle à un homme qui s'appelle Pierre. Jésus va dire, et moi je te dis ceci, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai, ou d'autres versets vont dire, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien faire contre elle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui connaissent ce texte, là on parle de ce qu'on dit dans notre jargon, une parole prophétique, une promesse de Dieu. C'est-à-dire, Jésus libère dans la vie de Pierre une promesse. Et aujourd'hui, on est le 2 juin 2024, plus de 2000 ans plus tard, une parole qui a été libérée dans la vie d'un homme. Je suis en train de la citer encore, mais je suis en train de prêcher la parole à travers une parole prophétique du Seigneur Jésus. Et pendant qu'on était là en train de chanter, je pensais à plusieurs au milieu de nous. Vous avez reçu peut-être une parole, vous l'avez lue, vous l'avez peut-être entendue, d'un homme que Dieu a utilisé pour vous dire, pour vous donner l'intention de Dieu. Une parole prophétique, c'est l'intention de Dieu. C'est Dieu qui désire nous utiliser, Dieu qui désire faire une œuvre en nous, Dieu qui désire faire quelque chose de particulier. Mais cette parole, j'aimerais te dire que, qui a été libérée dans ta vie, qui a été donnée pour ta vie, c'est une parole qui est tellement victorieuse qu'elle est capable de traverser les siècles et des siècles. Cette parole est capable aussi de traverser les combats. Cette parole est capable de traverser les déceptions. Cette parole est capable de traverser la persécution. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on lit ça aujourd'hui, mais il y a des siècles et des siècles de persécution. Il y a des siècles et des siècles de combats. Il y a des siècles et des siècles de déceptions. Tu es entré dans ce lieu. Et là, je suis en train d'apporter une parole, ce qu'on appelle de connaissance. C'est une dimension prophétique. Tu es entré dans ce lieu et ta vie ressemble à des siècles et des siècles de persécution, à des siècles et des siècles de violence. Mais pourtant, la violence, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit une forme de persécution et d'abus, n'a pas empêché cette parole-là de s'accomplir. Et cette parole a traversé. Et aujourd'hui, cet homme que je suis, homme fort et puissant, est en train de déclarer une parole que le diable a voulu arrêter, a voulu étouffer à travers les siècles. Si tu es dans ce lieu et que des années en arrière, Dieu t'a dit quelque chose par la bouche de quelqu'un, Dieu t'a écrit quelque chose, j'aimerais te dire que la parole que tu as reçue va traverser et a traversé ce que tu es en train de vivre de plus douloureux, de plus terrible. Et Dieu me disait tout à l'heure, cet après-midi, une des choses que je suis en train de faire, je suis en train de ramener des paroles, des promesses à la vie. Si pour Pierre, cette parole-là est utilisée et amenée à l'accomplissement et a même béni toutes sortes de personnes qui croient en cette parole, la parole que tu as reçue, c'est pour la libération de ta famille. La parole, je le redis, la parole que tu as reçue, c'est pour la libération de ta famille. Tu as été violenté. Je vois des violences conjugales. Je vois des bleus. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je souffre autant? Mais Dieu te dit, ce que tu as vécu n'a pas arrêté mon amour, n'a pas stoppé ma puissance. Et cet après-midi, je suis là pour te dire juste, je suis avec toi. Et la victoire est entre tes mains. Et moi, je te le dis, tu es pierre et sur cette pierre, je construirai mon église et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Quand on lit ce texte, et c'est tellement malheureux que l'église de Jésus-Christ est devenue juste une église qui se défend. Mais la construction de ce passage, la forme dans laquelle est écrit ce verset, c'est une forme offensive. Écoutez-moi, suivez-moi bien. C'est pas juste, et ce n'est pas, non, c'est même pas, c'est pas juste. Ce n'est pas surtout que si on t'attaque, si l'ennemi t'attaque, il ne pourra rien faire. Non, 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 non. Quand Jésus donne cette promesse à Pierre, il dit, voilà ce qui va se passer. Mon église va attaquer. Et lorsque mon église attaque, rien ne pourra résister. C'est ça la forme de ce texte. Et alors que je lisais ça, je me suis posé la question, elle est où l'église conquérante? Où sont les chrétiens conquérants? Aujourd'hui, nos prières sont souvent des prières de défense. Des prières où on repousse. Des prières où on chasse. Et souvent, c'est l'ennemi, c'est le diable, appelez-le, c'est Satan qui fixe le rythme de nos prières. Quand il nous laisse tranquille, on est content. On chante des louanges. Quand il nous attaque, on bombarde un peu pour les plus fervents dans l'intercession. On va commencer à jeûner. Mais moi, j'aimerais dire ceci. Dieu m'a dit une chose, et en ce moment même, il cherche une église qui ne marche pas selon le rythme de l'adversaire. Mais il cherche, Dieu cherche une église qui va aussi aller à l'offensive. Qui va, quand je parle d'être à l'offensive, je parle d'attaquer. Quand est-ce que tu as attaqué avant qu'on t'attaque? Non, non, mais c'est une vraie question. Moi, je me suis posé la question, quand est-ce que j'ai attaqué avant que le diable m'attaque? C'est toujours lui qui m'attaque. Après, j'ai dit, au nom de Jésus, va-t'en. Non, mais avant qu'il m'attaque, quand est-ce que je suis allé attaquer? Quand est-ce que la dernière fois, tu as lancé un assaut? Alors que tout va bien. Tu dis, carache, je suis énervé là. Je vais aller arracher une âme au Seigneur. Je vais aller prier. Tout va bien. Dans mes finances, je vais aller chercher plus d'argent. Je vais aller attaquer. J'attends pas que ce soit dans la 17 pour commencer à prier pour mes finances. Je suis dans la santé, je suis dans la joie. Ah, je vais aller attaquer. Je vais aller encore louer. Je vais encore plus de joie. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je vais aller attaquer. Je vais aller attaquer. Je vais encore plus de Dieu. Plus à déborder. Quand est-ce que la dernière fois tu as lancé l'assaut? Quand est-ce la dernière fois que tu as attaqué? Quand est-ce que la dernière fois, c'est toi qui as dit, je veux engager le combat? Tu es là le soir à toujours, ah, pourvu qu'il ne m'embête pas. Mais embête-le, toi. Comprenez ce que je dis? Quand il est dit, rien ne pourra résister à l'église. Ce n'est pas une église qui attend d'être attaquée et Dieu protège. On a trop une conception d'un Dieu juste qui nous protège. La croix, ce n'est pas qu'une protection. La croix, c'est Jésus qui renverse. C'est Jésus qui détruit les œuvres du diable. Donc, alors que je marche avec la puissance de la croix, je dois apprendre, moi, à fixer le temps et le rythme. En tant que chrétien et surtout, et c'est notre thématique mensuelle, en tant qu'église, quand l'église comprend qui elle est, c'est elle qui fixe les temps dans une saison. C'est elle qui fixe le temps dans une ville. C'est elle qui décide quand est-ce qu'il y a la croissance, quand est-ce qu'il y a l'évangélisation, quand est-ce qu'il y a la percée, quand est-ce qu'il y a la prospérité. Arrêtons de nous battre quand on est attaqué. C'est pour ça qu'on est en train tout le temps d'être abattu. Mais quand tu te bats, parce que tu as compris que tu es déjà victorieux, c'est toi qui attaques. J'ai envie de marquer devant chez moi. Tu sais, parfois on voit chien méchant. Chrétien méchant. Contre le diable. Elle n'est pas dit, ouais, le pasteur a dit on peut être méchant. Chrétien méchant contre le diable. J'attends pas qu'il entre. J'aboie, je suis là. Surtout ne t'approche pas. Mais c'est ça l'église. Nous devons être en conquête. Écoutez bien, c'est un message prophétique. Il y a un adage qui dit, dans le sport, la meilleure défense c'est l'attaque. Mais moi, je me dis, et en fait, quand je dis « moi », je me dis, je me suis posé juste cette question. C'est comme si le Saint-Esprit me disait « mais Romaric, où sont les chrétiens qui attaquent ?» Bien souvent, je le vois en pastorat, dans l'accompagnement, dans tout ce qu'on peut, comment on peut aider les chrétiens à traverser les saisons compliquées. C'est toujours « ok, on va prier contre, on va prier contre, mais l'ennemi est déjà là !» Aucune autre puissance ne peut stopper l'Église quand l'Église attaque. Écoutez bien, quand tu attaques, aucune autre puissance ne peut te stopper. Et la mentalité, Église aime, d'attaque. On est des attaquants, des enragés, des fous furieux de Dieu. Non mais... faut pas, vous savez, on s'est enregistré, mais vous savez très bien de qui je parle. Ils n'ont pas attendu qu'on les attaque. Et si on ne fait rien, la France n'est plus chrétienne dans quelques années. À Toulon, il y a des quartiers parce qu'on n'a pas attaqué. À la Seine, il y a des quartiers parce qu'on n'a pas attaqué. On n'est plus en mode conquête. Là, ce qu'on appelle la grande commission donnée à l'Église, allez, faites de toute nation les disciples. Ça commence par aller. Le contexte de ça, c'est un contexte de conquête. Et je vais reprendre un mot que certains peut-être peuvent. Je regarde aussi dans la salle, mais je suis très à l'aise. Quand vous avez employé ce mot, vous allez dire waouh, celui-là à l'aise de l'employer. C'est bon. Ok, écoutez bien. Le mot, la notion qui est exprimé par la grande commission donnée à l'Église, c'est la colonisation. Véridique. L'un des ministères majeurs, Dieu a établi premièrement les apôtres, et les apôtres, le mot apôtre, apostolos, c'était un homme qui était envoyé. Pour, une fois que la conquête est faite, l'apôtre vient, il établit la culture de l'autre territoire. C'est une dimension de colonisation. L'Église, écoutez bien, l'Église doit coloniser. Regarde la personne à côté de toi, même si elle est noire, tu dis que tu es un colon. Romaric est un colon. C'est une balle de revanche. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous comprenez? Il faut que notre mentalité soit changée. Vous allez vérifier les mots grecs et tout ça. Lorsqu'on parle du royaume qui vient, qui envahit la terre, c'est la colonisation. Et quand on étudie, c'est quoi la colonisation? Donc, quand Jésus donne la mission aux apôtres, il est en train de dire, j'envoie des colons. Les chrétiens, l'Église, c'est une entité spirituelle qui n'est pas appelée à aller négocier, mais qui est appelée à aller coloniser. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dois avoir cette mentalité de colonisateur. C'est pas ça que je dis? C'est ça? Oui, voilà, de colon. Dans mon travail, je suis un colon. Dans mon quartier, c'est moi qui colonise. Avec mes lois, avec les valeurs du royaume. Et quand l'Église a cette mentalité, on peut imprégner la société. Mais si on est tout le temps là, au nom de Jésus, protège-moi par le sang de l'agneau. On est tout le temps dans la peur, dans la défense. C'est eux qui imposent. Quand je dis eux, c'est l'esprit, les esprits qui imposent. Et nous, on est tout le temps en train de se défendre. Seigneur, protège-moi, le sang de l'agneau. Et il y en a le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, la porte, le sang de l'agneau partout, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Quand on me touche, surtout quand on ne me touche pas. Mais non, mais toi, touche un peu. Toi, touche. C'est toi qui colonises. C'est eux qui disent, en fait, surtout pas le sang de l'agneau. Surtout pas le sang de l'agneau. Surtout pas le sang de l'agneau. Surtout pas. Changement de mentalité. Changement. C'est ça l'Église. Et quand on est comme ça, Jésus nous dit, tu marches et même les portes de l'enfer ne peuvent pas te résister parce que tu es un colon qui arrive. Pas qui recule. Si on a cette mentalité, nos réunions même de prière, d'intercession ne seraient plus tournées que sur nous. On enverrait des flèches. Nous, on utilise tout le temps, tu sais, vous savez, comme des boucliers. On se protège tout le temps. On se protège tout le temps. Mais attention. Toujours en introduction. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Jésus parle de l'église. Mais il ne suffit pas, en fait, de s'appeler Église pour être cette Église qui fait peur et que l'ennemi même fuit sur son passage. Tu peux mettre Église M. La question, c'est, est-ce que tu fonctionnes comme une Église? C'est pas parce que je vais aller créer ou mettre des associations, comment là, déposer les statuts à la préfecture. Je suis église. Ah, j'ai déposé. Donc, comme j'ai les statuts église, et que la CNIL et tout le BINS là, et tout est carré, c'est pas parce que tout est carré administrativement que j'ai l'autorité spirituelle. Parce que il y a une confusion aujourd'hui. Comprenez-moi bien. C'est pas parce que je m'appelle église M que lorsque j'attaque, que l'ennemi aura peur. Nous devons comprendre que ce n'est pas, l'autorité n'est pas liée à l'appellation. L'autorité est liée à l'incarnation. Est-ce que j'incarne l'Église? Est-ce que je fonctionne comme une réelle Église, comme Jésus veut? Et c'est pourquoi, encore une fois, nous structurons, nous organisons pour être le plus proche possible de l'Église selon le cœur de Dieu. Parce que si je pense que mon autorité est connectée au fait que je m'appelle Église, je n'aurai aucune autorité. C'est pas parce que je dis au nom de Jésus que j'incarne Jésus. Donc, et je crois que j'ai marqué une très très belle phrase là-dessus. Nous devons fonctionner comme Christ veut que l'on fonctionne si nous voulons vivre la puissance de l'Église. Quand Jésus dit « Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle », il est en train de parler de cette Église-là qui fonctionne comme il a dit, c'est-à-dire qui attaque, qui croit qu'elle a l'autorité, qui croit en Jésus, qui marche sur Jésus. Quand cette Église-là marche selon ce qu'on appelle les principes du royaume, selon les lois du royaume, cette Église-là n'a pas à avoir peur. Quand tu marches selon ce que l'envoyé t'a dit, quand tu marches avec les armes de l'envoyé, tu n'as pas à avoir peur. Tu es cette église triomphante, tu es cette église forte, tu es cette église puissante. Et nous devons absolument nous poser la question, alors que tout ce mois, je vous invite vraiment à réfléchir, c'est quoi l'église? Il y a un an, je me retrouvais dans une pastorale avec différents pasteurs de Foursquare. Et c'était la première fois que je les voyais, on doit se présenter, tout ça. Et moi, je dis, je me demande, c'est quoi l'église? Pasteur, qu'est-ce que l'église? Moi, ils ont tous ouvert les yeux. Et je me suis dit, mais en fait, j'arrive à la conclusion que on a tous parlé de l'église, mais qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que l'église? C'est une vraie question. Parce que si on veut marcher avec la puissance de l'Église, il faut qu'on comprenne c'est quoi l'Église. Tu ne vas pas dire au démon, au nom de l'Église M, je sais que tu as tremblé parce que je suis à l'Église M. Ça ne marchera pas. Par contre, si tu as compris c'est quoi l'Église, j'aimerais te dire, peu importe ce que tu vis, si tu es dans l'église spirituelle, et c'est ça qui est puissant, plus rien ne peut te résister. Il y a une puissance qui est dans l'église. Donc maintenant, tu peux mettre la diapo 1, s'il te plaît. Le thème de mon message cet après-midi. La puissance de l'interdépendance dans une église. On va voir ça. Parce que l'église, elle fonctionne. Pourquoi elle est puissante? Pourquoi Jésus dit... En tant que colon, quand vous allez partir, rien ne peut vous résister. Pourquoi? Parce qu'il y a... Nous, on parle de Jésus, c'est extraordinaire. On parle des armes, de l'esprit. Oui, OK. Mais l'Église, c'est d'abord des hommes et des femmes qui sont ensemble et qui sont interdépendants. Et il y a une puissance. Vous allez voir, quand je parle d'interdépendance, c'est réellement cette réalité spirituelle où nous avons une dépendance mutuelle. Et c'est voulu par Dieu. Et je vais parler de... Je n'aurai pas le temps de... Mais je vais vous donner une ou deux images de l'Église. L'Église est un champ, premièrement, où on voit cette dimension d'interdépendance. 1 Corinthiens 3, 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. L'Église à qui rien ne résiste. Selon la pensée de Dieu, elle doit être comme un champ spirituel. Et là, il est question plus précisément même de l'église locale. Est-ce que tu savais que l'église locale est comme un champ? Regarde avec moi. 1 Corinthiens 3, 6. C'est Paul qui dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Rien que ça, là, ça nous parle d'interdépendance. C'est-à-dire quoi? La puissance de l'Église, c'est quoi? Si je prends conscience, l'Église est comme un champ. Dans ce champ, ce n'est pas qu'une question que de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que l'Église, elle est divine, elle est humaine. Quand tu es dans une église locale, il y a des personnes qui plante, il y a des personnes qui arrosent. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et c'est hyper, hyper puissant. Écoutez bien, je le connecte à ce que Jésus a dit à Pierre. Les portes de l'enfer ne peuvent pas résister à la puissance de la croissance d'une église. Pourquoi ? Pas juste parce que ah, c'est puissant, c'est glorieux. Ok, mais comment ça se passe ? Si tu réalises que l'église locale où Dieu t'a planté est comme un champ, tu réalises, toi, tout ce que tu as à faire. Si tu es un arroseur, c'est d'arroser. Si tu es un semeur, c'est de planter. Et automatiquement, comme nous sommes un champ, semence plus arrosage, Dieu dit, tu n'as pas besoin de crier comme un malade, ça va croître. Est-ce que vous comprenez ? Le problème, et c'est pour ça que je parle d'interdépendance, le problème, c'est qu'on va aller voir quelqu'un, on va dire, mais moi, je veux que tu arroses. Non, mais moi, je veux planter. Moi, je sens que je dois planter. Et on est où ? Certains vont planter et vont en vouloir à ceux qui doivent arroser. C'est des images. N'essayez pas de dire, ok, moi, je suis planteur, arroseur. Il y en a qui disent, c'est 500 là. Il y a des moments où tu peux être planteur, il y a des moments où tu peux être arroseur. Planteur, pas planteur, Agnel. Hein. Et il entend déjà, lui dit, moi, je suis planteur. Planteur de Rome. C'est puissant. J'aimerais nous aider tous ensemble à avoir une mentalité de conquérant. Amen. Comment on a cette mentalité ? C'est de le respect mutuel dans une église. Il y en a qui vont semer dans la prière. Il y en a qui vont arroser par le travail, par les finances, peu importe les domaines. Mais Dieu fait croître. Dieu fait croître. Mais ça... Ce qui est puissant, encore une fois, le champ, ce n'est pas un homme seul. En tant, j'espère vraiment avoir le langage qu'il faut. Écoutez-moi bien. En tant qu'individu, en tant que croyant, tu peux être une semence, mais pas un champ. L'endroit où ça va grandir, l'endroit où tu vas te développer, l'endroit où l'ennemi ne peut rien faire contre toi, c'est l'église locale. Parce que dans cet endroit, alors que tu vas goûter à la semence, tu pourras goûter aussi à quelqu'un qui arrose et Dieu pourra faire croître. C'est pourquoi tout projet, tout appel, toute idée doit être entretenue, développée dans l'église locale pour que tu sois protégé. Je n'ai pas dit doit être sous la coupe de ton pasteur. J'ai dit, doit naître, doit être protégé dans l'église locale. Parce que, c'est pourquoi, et tout à l'heure, on a eu un temps de prière, c'est pour ça que quand l'église prie pour ton projet, quelque chose se passe. Parce que l'église devient ce champ où les choses vont grandir. Où un projet peut naître dans ton cœur en tant que semence, mais va se développer à travers la communion fraternelle de l'église locale. Parce que quelqu'un va être à côté, va arroser. Ne te prive pas de ceux qui doivent arroser. Qui doivent arroser ta semence. Ne te prive pas de la puissance de l'église. Qui va faire en sorte que, avec les uns les autres, on est tellement interdépendants que quand on va avancer dans notre projet, le diable ne peut rien faire. Comprenez bien, je le connecte vraiment à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne réussissons pas parce que nous séparons nos semences du champ qui est l'église locale. Nous ne réussissons pas parce que nous séparons l'arrosage du champ qui est l'église locale. L'église qui triomphe, l'église qui avance, l'église qui remporte des combats, l'église que l'ennemi ne peut rien faire, ne peut pas atteindre. C'est une église où l'un plante, où l'un arrose et Dieu ensuite fait croître. Et tu as besoin de dire, Seigneur, merci pour le projet que tu m'as donné. Merci pour ce que j'ai à cœur. Merci pour ce que tu as semé en moi. Mais je veux que ça soit connecté au champ. À l'église locale. Et quand c'est connecté à l'église où Dieu t'a planté, il n'y a pas Il n'y a pas qu'une seule église locale, vous m'avez compris. Mais là, quand tu es connecté, là je suis à l'église M, donc je parle à l'église M. Mais quand tu es connecté à l'église M, si Dieu t'a planté à l'église M, et tu vas voir le fruit qui va commencer. Parce qu'il y a une protection naturelle. En fait, il y a une loi spirituelle qui dit, touche pas. Dieu fait croître. Et il y a d'autres paraboles qui parlent de ça. Les paraboles du royaume. On dit que c'est comme un grain de tu plantes et on ne sait même pas pourquoi ça pousse tout simplement, ça croît. Pourquoi? Parce que c'est des lois spirituelles. Mais si tu te déconnectes de l'église et du champ où Dieu t'a planté, alors là, tu es en danger spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'église locale est un champ. Je peux reprendre cette pensée de l'autre côté en disant, mais est-ce que je sème dans le champ qui est l'église locale? Est-ce que je sème mon énergie? Vous savez, parfois, je dirais malheureusement, bien souvent, on est fragilisé dans nos projets personnels parce que nous n'avons pas, et quand je dis semer, j'ai dit de l'énergie, ce n'est pas que des finances. Détendez-vous, on aura un temps où on va parler des finances. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. De notre cœur, de notre vie, de notre énergie, si tu ne sèmes pas là où Dieu t'a planté, ce que tu as, tu l'exposes à l'ennemi. C'est l'église locale qui est l'entité spirituelle. Encore une fois, quand je parle de l'église locale, je préfère être lourd là-dessus. Je n'ai pas dit le pasteur. C'est les frères, les sœurs, les autres, tout le monde. C'est ça l'église locale. Donc, est-ce que tu as pris conscience que l'église est un champ où Dieu t'appelle à semer ce qu'il a mis dans ton cœur? On est dans un monde où on a tellement de projets. On a tellement de projets. Mais ces projets-là, est-ce qu'on le sème dans le bon champ? Premièrement. Deuxièmement, un a semé, l'autre a arrosé. Donc pareil, je me mets de l'autre côté aussi. Je peux me poser cette question. Est-ce que j'ai pris conscience que dans le champ où Dieu m'a connecté, il y a des endroits, il y a des domaines où Dieu veut que j'arrose. Alors, je vais rendre ça plus terre à terre. Comment est-ce qu'on peut arroser? Comment est-ce qu'on peut arroser? Encouragement. Pourquoi l'Église peut être inébranlable? Imaginez, parce que ce n'est pas les mêmes lois que dans ce monde. Imaginez un instant que chacun de nous, nous prenons conscience. C'est pour ça que je parle d'interdépendance. Toi, tu es une semence. Tu as une semence. Tu as un projet de développement personnel. Et moi, je prends conscience que j'ai quelque chose que je peux t'apporter, mais peut-être pas en termes de semence, en termes d'arrosage. Je viens, je dis, oh, génial, je suis avec toi. C'est top ce que tu fais. Continue comme ça. Si tu reçois 10, 20, 30 chaque dimanche que tu viens, ou même dans la semaine, des encouragements, tu ne crois pas que tu auras la force d'aller jusqu'au bout? Et nous, on dit, Saint-Esprit, ouais, on prie. Bien sûr, je ne dis pas que tout ça, ça ne sert à rien. Je suis en train de vous donner des moyens concrets pour être inébranlable. Là où l'ennemi ne peut rien faire, c'est parce qu'on fonctionne comme une église. Rappelez-vous, je construirai mon église et même l'enfer ne peut rien. Et même le séjour de mort ne peut même pas résister quand l'église avance. Parce qu'elle va avancer avec la semence, elle va avancer avec des hommes et des femmes qui seront mes premiers supporters. Et si j'ai des hommes et des femmes qui sont mes premiers supporters, peu importe ce que je vais traverser, l'ennemi va trembler parce que mes supporters de l'église vont me protéger du découragement. Les supporters de l'église vont me protéger du péché. Les supporters de l'église vont me protéger de toutes sortes de pensées mauvaises qui vont me déconnecter de ce que Dieu a mis en moi. C'est ça! Arrêtons de tout spiritualiser comme si c'est que Dieu ou le Saint-Esprit va faire. Non. C'est parce que je suis connecté dans une église et que l'église est un champ et qu'il y a des arroseurs. Et tu peux être cet arroseur. Question, est-ce que tu es cet arroseur? Il y en a toute leur vie, comme on n'a pas compris c'est quoi l'Église, on croit que l'Église c'est juste un truc social où c'est moi. Tu peux arroser par tes encouragements. Et quand on a pris quelques temps tout à l'heure avant de commencer la célébration, pourquoi on a pris ce temps? Parce que l'Église, ce n'est pas juste ceux qui font la louange ou le prédicateur qui va arroser ou qui va encourager. Tu peux changer la vie de quelqu'un en saluant, en prenant un temps, dans la semaine, en prenant des nouvelles, dans ton groupe de disciples. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on crée les groupes de disciples? Pour que ce soit des endroits où on sème et on arrose. Dieu fait croître. Dieu fait croître. Et si on applique juste ce principe-là et qu'on comprend juste ce principe du champ, voilà ce qui va se passer. C'est la loi de la semence qui va s'appliquer. Je sème, je récolte. Parce que je vais semer dans un environnement qui s'appelle le champ. Et comme cet environnement est selon le cœur de Dieu, fonctionne selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'il y aura des arroseurs naturels qui vont venir. « Ah, Christine, je suis fier de toi. Ah, tu es allée là-bas. Ah, mais Christine, j'ai appris que tu travailles là-bas. Tu es impliqué dans une association. Comment ça se passe dans cette association? Ah, mais j'ai vécu ça. Ah, ouais, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, ça va bien aller. Oh, Christine est boostée, reparte. Et la semaine, ah, rien ne lui résiste. Parce que quelqu'un a arrosé. Parce que quelqu'un a arrosé. Et j'aimerais vraiment, et je termine avec ça, si l'église peut, l'église, les groupes de musique, mais même l'église peut être sur le mettre là, hein, tout ça. Je vais juste m'arrêter sur le premier point. Deux idées principales ce matin. On est une puissance qui doit aller à la conquête. Premier point que j'ai développé dans mon introduction. Et deuxième point, l'église locale est un champ. Et quand je réalise cela, je vais commencer à semer des choses. Il y en a, vous avez vos semences dans vos poches. Mais vous êtes à l'église locale. Profitez. Semez vos dons, vos talents dans l'église locale. Et vous allez voir, vous allez grandir. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a donné. Et je disais tout à l'heure, il y a des promesses qui sont en suspens. Parce que tout simplement, ça n'a pas été semé au bon endroit. On peut semer de partout. Mais si on n'a pas semé dans l'église locale, je vous assure, ce n'est pas protégé. C'est une loi spirituelle. Donc cet après-midi, je peux décider de dire, Seigneur, j'ai pris conscience de la puissance de l'église locale et surtout de l'interdépendance dans l'église locale. C'est-à-dire, Céline Colombo a quelque chose que je n'ai pas. Et j'ai quelque chose que Céline Colombo n'a pas. Et si les uns les autres, on fonctionne comme ça, au lieu d'être là à de juger nos couleurs, nos styles, nos formes, le malin est très rusé. Il sait qu'en faisant ça, nous nous affaiblissons nous-mêmes. Mais si je commence à apprendre à ce qu'on se célèbre les uns les autres, je dis, ouais, et je commence à semer dans mon église. Et littéralement, je vous assure de la part du Seigneur, la croissance est naturelle. La croissance est naturelle. La croissance est naturelle.